l'ultra foutage de gueule.
Une sale gaucher.
Oui, peut-être.
Je suis un rebelle officiel.
Vous êtes à côté, madame Blanc. On ne peut pas dire que vous cassez les gueules.
C'est fantastique.
C'est de la merde.
C'est énorme.
Comme ma bite.
Stop. L'humour a ses limites.
Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui change un peu, puisque je me penche sur le décryptage d'une bande-annonce de film. Le film en question, Tombé du ciel du réalisateur Mohamed Hamidi, dont la sortie est prévue en août 2026. On pourrait se dire que juger un film sur la base de sa bande-annonce n'est pas particulièrement pertinent, mais vu la récurrence de ce nombre de films et les mécanismes qu'on y retrouve systématiquement, la probabilité que j'ai tout faux est faible. Tout d'abord, la première chose visuelle qui m'interpelle, c'est la toile de fond, l'église catholique.
Mais comment c'est possible ?
Mon premier réflexe est de me dire, allez, c'est parti, encore un film pour humilier les catholiques, la cible facile et le bouc émissaire préféré des gauchistes. Se moquer des catholiques est une pratique récurrente dans le cinéma français. On se souvient par exemple de La vie est un long fleuve tranquille en 1988, comédie culte d'Étienne Chatiès qui égratigne sévèrement la famille lequesnois, parangon de la famille catholique bourgeoise stricte et bien pensante, dont la vie bascule lorsqu'ils découvrent que leur fils biologique a été échangé à la naissance. On se souvient également de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui, même si c'est une comédie, caricature de manière très appuyée la bourgeoisie catholique de province incarnée par Christian Clavier et Chantal Lobby.
Pensez à réserver votre soirée du 17 juin.
Qu'est-ce qui se passe le 17 juin?
Je vais jouer Jésus.
Mais Jésus était pas...
Dans un deuxième temps, je jette un œil au réalisateur, Mohamed Hamidi. Un arabe qui réalise un film ayant pour toile de fond l'église catholique, une petite lumière clignote dans mon cerveau et me donne envie d'aller fouiller un peu plus. Alors Mohamed Hamidi, franco-algérien, déjà je tique, mais bon, poussons l'investigation. Né quelque part, jusqu'ici tout va bien, citoyen d'honneur, ouais. Bon, je vais pas juger le réalisateur puisque je le connais pas du tout, mais j'observe tout de même que ses films tournent tous autour du communautarisme maghrébin et de ses origines nord-africaines, mais bon, pourquoi pas, j'ai aucun problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, rien de bien croustillant ou de polémique du côté de sa filmographie. Bon, venons-en au titre, Tombé du ciel.
Tombé du ciel, à travers les nuages.
Quand j'entends ce titre, je pense à un ange et je devine à un être profondément bienveillant qui va changer la vie de tous les autres protagonistes, ce qu'est censé faire un ange. Penchons-nous sur l'affiche maintenant. Avant même d'avoir vu le film, elle vous raconte toute l'histoire. On a donc au centre un jeune maghrébin qui semble apeuré ou stupéfait. Autour de lui, l'institution catholique est réduite à un folklore de château, d'uniformes rigides et de religieux au sourire niais, voire fourbe. On peut y voir également Jamel Debbouze qui semble inquiet ou du moins sur ses gardes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est ce qui se passe à l'arrière. Observez bien les signes que renvoient les deux adolescents à gauche du trio et à droite. À gauche, deux élèves qui sortent des standards de beauté. Une petite grosse et un garçon chétif, tous deux portant des lunettes, le symbole du premier de la classe marginalisé et moqué. Ils incarnent les exclus. Automatiquement, le spectateur leur attribue de la gentillesse, de l'empathie et une absence de menace. Ça sent à des kilomètres les serpillères d'Imi en devenir. C'est l'archétype du gauchiste complexé ou du bon élève blanc en quête de validation auprès du jeune de banlieue. À droite, le profil change radicalement. Deux jeunes, grands, minces, physiquement impeccables et qui ne sourient pas, contrairement à ceux de gauche. Ils incarnent l'élite esthétique et sociale de l'établissement bourgeois. Ils incarnent l'arrogance, le privilège, la rigidité identitaire et par extension, le racisme ou le harcèlement. Leur absence de sourire signale immédiatement aux spectateurs « Attention, ces deux-là vont rejeter le héros, ils sont fiers et fermés ». Le pitch du film est le suivant et vous verrez que mes impressions se précisent. Accusé à tort d'un délit, Iliès doit quitter Roubaix pour le seul établissement qu'il accepte, le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Iliès va surmonter ses préjugés et ceux des autres. Ah, on y vient, Iliès est accusé à tort.
Comme par hasard ?
Forcément, tout le monde sait que les maghrébins sont des victimes éternelles de préjugés et qu'ils ne sont jamais responsables de rien.
Je connais cette théorie, oui.
Notez la fin du pitch. Iliès va surmonter ses préjugés, ça c'est pour la caution d'objectivité. Il n'est pas parfait, lui aussi il a des préjugés, comme tout le monde.
Comme vous, comme moi ?
La partie qui en dit long, c'est le point de suspension. Iliès va surmonter ses préjugés et ceux des autres, avec le point d'exclamation. En rhétorique, on appelle cela la fausse équivalence ou le déplacement de culpabilité. Des points de suspension créent une attente. Si la phrase s'était arrêtée à Iliès va surmonter ses préjugés, on aurait le portrait d'un héros imparfait qui va évoluer au cours du film. En ajoutant et ceux des autres, le pitch opère un virage à 180 degrés. Ce n'est plus seulement une histoire d'introspection, cela devient un combat à un contre tous. C'est là que réside la vraie manipulation rhétorique. En associant ses préjugés à ceux du reste du monde, on crée une fausse équivalence qui joue en faveur d'Iliès. On minimise ses torts. Certes, Iliès a des préjugés, mais le point d'exclamation et la tournure de phrase suggèrent que le véritable problème vient de son environnement, ici un établissement catholique. Il devient la victime. Les préjugés des autres vont s'abattre sur lui. Finalement, on oublie vite ses défauts pour s'indigner de ce qu'il va subir. Continuons, regardons maintenant la bande-annonce.
Iliès, rentre réviser, demain c'est le bac.
Faut vraiment que tu laisses coussi.
Il est hors de question que vous terminiez l'année ici. Vous allez changer de lycée. Il s'agit d'un lycée catholique.
Ahmed, Iliès, Fatima, c'est pas catholique. C'est pas... Jésus va jamais vouloir, je pense, hein.
Il s'agit du lycée Albert le Grand à Chablis.
Écoutez, madame, moi je viens d'arriver ici.
Vous m'appelez ma sœur.
J'ai pas le numéro de votre sœur. Et du coup, vous êtes qui?
C'est le frère Oscario.
Ça va, frère?
Chez les catholiques, c'est génial, mais je te préviens, il y a des pièges.
Tu fais quoi, là?
Je peux pas déjeuner ce matin.
Il est en train de manger tout le corps du Christ, là.
Commencez pas à dire j'ai mangé les gens.
Ce sont les hosties pour la messe de dimanche.
Allez immédiatement vous confesser.
Dans l'armoire, là?
Premier piège. Il mange du cochon tous les jours.
Tu veux, j'ai jambon beurre. Non, en fait, vous avez...
Saucisson beurre.
Deuxième piège. Quand ils boivent et dansent et chantent, ils font la queue leu-leu. Attention, rentre jamais dans la queue leu-leu. Tu peux jamais en sortir. Tout le monde s'éclate à la queue. C'est pas vrai.
Je vous jure, je suis dans une prison. Là, je vous appelle avec un meuble.
Y a pas de réseau dans son monastère, là.
Wesh, mon frérot, ça va ou quoi? Ça me fait trop plaisir que tu sois là, mon rock.
Voilà. Tu t'approches du cochonnet, là.
Il y a du cochon partout, ici, en fait.
Bonjour, mon fils.
Bonjour, papa.
C'est mon pote Célestin, il se prend pour un arabe.
Tout se passe bien pour lui, alhamdoulilah.
Ça fait mal votre truc. Vous venez voir la Vierge, elle pourrait vous mettre bien. Un petit coussin. En fait, on n'est pas totalement différents. Mais on est un peu les mêmes quand on regarde bien. Ça fait mal pour tout le monde. Hein.
Bon, que dire? Déjà, on a bien le choc culturel annoncé, gamin de banlieue face à l'institution religieuse, rigide et froide. On a aussi des quiproquos classiques entre le jargon chrétien et le langage de banlieue, ça c'était prévisible. Bon, c'est pas hilarant, mais ça peut faire sourire, j'avoue. Tiens, vous rappelez ce que je vous disais sur les personnages antagonistes de l'affiche. Bingo, on y retrouve bien notre serpillère gauchiste Dimmy, tellement tolérant et ouvert à la culture d'autrui, qu'il a décidé de s'assimiler à l'envers.
Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr!
Ahmed, Iliès, Fatima, c'est pas catholique, c'est pas... Jésus va jamais vouloir, je pense, hein.
Cette réplique, c'est ce qu'on appelle un déplacement de tolérance, mécanisme récurrent dans le cinéma progressiste français. Le film prête des intentions d'exclusion à l'institution catholique à travers l'inquiétude du jeune homme, ce qui permet de valider le préjugé du public cible.
Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer.
Dans le logiciel de cette partie du cinéma français, le catholicisme est souvent traité comme structure dominante et historique, ce qui, selon leur grille de lecture idéologique, en fait une cible légitime et sans risque pour la critique ou la moquerie. A l'inverse, les autres religions perçues comme minoritaires sont presque toujours protégées de la satire ou présentées sous un jour uniquement bienveillant ou naïf.
Allahu Akbar !
On a ici affaire au sophisme de l'épouvantail. On crée une version caricaturale, exagérée et fausse de son adversaire, l'école catholique forcément fermée et sectaire, pour pouvoir ensuite la déconstruire facilement au cours du film. On est bien loin de la vérité. D'une part, les établissements confessionnels sous contrat ont pour obligation légale d'accepter toutes les confessions. D'autre part, tout le monde sait que les établissements catholiques sont très prisés des musulmans qui souhaitent faire passer les chances pour l'avenir et le bien-être de leur enfant avant leurs propres convictions religieuses, l'enseignement et la discipline étant généralement très réputés dans ces derniers. En vérité, pour qu'une comédie de ce type fonctionne, le scénario a besoin d'un contraste maximal dès la première minute. Si le film montrait dès le départ la réalité, à savoir une école catholique où les profs et les élèves de toutes origines cohabitent déjà sereinement, il n'y aurait plus de film. Le ressort dramatique s'effondrerait. Le scénariste préfère donc fantasmer une institution catholique à l'ancienne, perçue comme un bastion monolithique, blanc, bourgeois et potentiellement hostile. En fait, le scénario est tellement prévisible. Le jeune musulman a peur d'entrer dans la tanière du loup catholique, les premiers jours montrent des catholiques rigides ou maladroits, voire hostiles, et grâce à sa présence, les catholiques s'ouvrent enfin au monde, alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Une autre scène m'interpelle. celle où Iliès participe à une célébration religieuse vêtue d'une robe, vêtement traditionnel des enfants de cœur. Là encore, c'est un mensonge qui n'a pour seul but celui d'amener une situation comique. C'est dans la loi, les célébrations religieuses au sein des établissements confessionnels sous contrat sont strictement optionnelles. Il n'y a donc aucune raison logique qu'il se retrouve enfant de cœur dans une messe. Bref, c'est tout le temps comme ça dans le cinéma progressiste français. Dans ces scénarios, l'univers majoritaire, souvent bourgeois, rural, provincial ou institutionnel comme l'école catholique, est initialement peint avec des traits négatifs. Rigidité, racisme larvé, fermeture d'esprit, ringardise.
Je vois pas où est le problème.
Le personnage issu de la diversité apporte la vitalité, l'authenticité, l'humour et une forme de sagesse pragmatique.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons ?
Au contact de cette force de vie, les autochtones se lavent de leurs préjugés. Le film ne cherche pas à faire s'affronter deux visions du monde à armes égales. Le groupe majoritaire est sommé de s'amender et de changer, tandis que le personnage minoritaire est souvent un saint laïc qui n'a pas de réels défauts moraux, seulement des difficultés sociales. On retrouve des mécanismes identiques dans le célèbre Intouchable, par exemple. Dans Intouchable, la symbolique est poussée à son paroxysme. Philippe le riche bourgeois est tétraplégique. Visuellement et physiquement, il incarne une haute bourgeoisie figée, incapable de bouger seule, prisonnière de ses codes, de ses majordomes et de sa musique classique de chambre. Face à cette immobilité physique ou institutionnelle, Omar Sy symbolise le mouvement pur. Il bouscule les protocoles. Le message subliminal est limpide. La tradition française est mourante ou bloquée. La diversité est l'énergie vitale qui la réanime. Tout comme dans Tomber du ciel, le personnage d'Omar Sy n'est pas présenté comme un personnage fondamentalement mauvais. Ses démêlés avec la justice ou sa précarité ne sont que des difficultés sociales externes. Jamais le reflet d'une noirceur de son âme. Au fond, il est pur, spontané et doté d'une immense empathie naturelle.
Ils sont d'une intelligence, ils sont d'une sensibilité, ils sont d'une empathie.
Ce procédé désamorce toute critique sociologique réelle. Le personnage n'a pas besoin de s'éduquer, de changer ou de s'intégrer. Ce sont ses employeurs ou le cadre institutionnel qui doivent s'adapter à sa fraîcheur. Il possède une supériorité morale innée, l'authenticité, face à l'hypocrisie des codes bourgeois ou cléricaux.
Je connais celle-là. Si, si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Assédiques de Paris. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans.
Quand on regarde le dénouement de ces récits, on s'aperçoit que la balance des gains est totalement déséquilibrée, ce qui valide ma thèse de la propagande multiculturaliste. La diversité apporte la joie de vivre, le retour au plaisir simple, fumer un joint, rouler vite en voiture, rire aux éclats. La guérison spirituelle et l'ouverture d'esprit. En clair, elle apporte l'essentiel, le sens de la vie. Ce que la vieille France apporte en échange, un salaire, un logement décent ou un cadre d'études dans le cas de Tomber du ciel, en clair, elle apporte le matériel. Le film sous-entend de manière très paternaliste que la France traditionnelle n'a plus rien à offrir sur le plan des valeurs ou de la culture, puisqu'elle est jugée ringarde ou coincée, et qu'elle doit se cantonner à un rôle de guichet social ou d'hébergement en échange de la vitalité qu'on lui insuffle. Et les déclinaisons sont nombreuses, avec le film Les Barbares de Julie Delpy par exemple. Un village breton s'apprête à accueillir des réfugiés ukrainiens, considérés comme acceptables par des villageois pointés du doigt pour leur racisme sous-jacent. Mais ce sont finalement des réfugiés syriens qui arrivent. Les villageois, d'abord méfiants, ignorants et pleins de préjugés, vont se transformer et devenir de meilleures personnes au contact de cette famille. Oh, c'est mignon.
Je ne sais pas si c'est habile, mais je trouve pas ça très intelligent.
Dans la comédie française contemporaine, le personnage minoritaire ne s'intègre pas à la société. C'est la société traditionnelle qui doit se convertir à lui pour se sauver de son propre déclin. Il est intéressant de faire le parallèle avec l'attitude des députés de la France insoumise, et vous verrez que le mécanisme de pensée est strictement le même que dans les films progressistes. Dans les deux cas, l'objectif est le même. Imposer une narration où la jeunesse de banlieue ou issue de l'immigration est structurellement du côté du bien, de la vie et de la fraternité, quitte à tordre la réalité et à ignorer le point de vue des personnes qui subissent la situation. Un exemple avec cette vidéo partagée par Thomas Porte. En transformant un encerclement intimidant en un acte d'escorte galant et protecteur, Le député efface le sentiment de peur légitime de la vieille dame pour le remplacer par un récit de chevalerie moderne.
Connard !
Cette image m'a choqué et je me suis demandé, mais pourquoi ils font ça ? C'est quoi le projet ? Dans ce cas précis, il semble évident qu'il n'avait pas d'intention malveillante envers cette vieille dame, mais ce n'est pas normal pour autant.
Pardon de le dire.
Dans la culture française, le respect d'autrui passe par l'évitement. On ne touche pas les gens, on les interpelle pas sans raison et on n'entre pas dans leur bulle spatiale. On anticipe en permanence le dérangement potentiel. Balancer de l'eau sur une voiture ou encercler une personne âgée est impensable, car l'empathie culturelle nous dit immédiatement « J'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je le fais pas aux autres. »
Bah ouais, logique.
En face, la sous-culture qui s'est développée dans les banlieues et les quartiers populaires fonctionne sur des codes totalement inversés. L'expression de rue, le narcissisme de groupe et l'absence d'altérité et d'empathie. Eux, ça les amuse et ça suffit. Le curseur du bien et du mal n'est pas placé sur le ressenti de la victime, la vieille dame intimidée ou l'automobiliste trempé, mais sur l'intention du groupe. On est bienveillant, on s'amuse, donc tu dois être content.
Oula, vous niquez vos mères.
Dans les banlieues, la rue est vécue comme le prolongement du salon. On y crie, on y met de la musique, on y squatte, on y fait griller des brochettes de rats, etc. L'espace public n'est pas un lieu de neutralité républicaine où l'on se croise en se respectant, c'est un territoire à occuper et à animer de force. Pourquoi Thomas Porte ou les réalisateurs de films trouvent-ils cela génial et vital ? Parce que dans leur logiciel idéologique, la retenue, la politesse et le calme sont vus comme des valeurs bourgeoises, blanches et réactionnaires. A l'inverse, le bruit, l'agitation, le sans-gêne et l'appropriation sauvage de la rue sont vus comme de la spontanéité populaire, de la chaleur humaine et de la résistance culturelle.
Dans quel pays on vit ? Où est-ce qu'on vit ?
Ils préfèrent détruire les codes de la civilité française qu'ils jugent rigides et mourants pour imposer ce folklore du chaos festif quitte à sacrifier la tranquillité et la dignité des personnes les plus vulnérables comme cette dame de 90 ans. Il faut pas oublier le cynisme des réseaux sociaux. Quand ils entourent la vieille dame pour faire un cordon de sécurité, mes couilles, ils sont en train de fabriquer du contenu. La vieille dame ou l'automobiliste ne sont plus des êtres humains dotés d'une sensibilité, ce sont des accessoires de vidéo. Ils sont instrumentalisés par les jeunes pour leur propre mise en scène. Le pire, c'est que ces enfoirés du Parisien sont allés retrouver la vieille dame prénommée Mireille.
Je me suis retrouvé en enfance, l'émouvant témoignage de mamie Mireille, protégée par les supporters du PSG dans les rues de Paris. En marge de la finale de la Ligue des Champions, Mireille, 90 ans, est devenue la star des réseaux sociaux après avoir été escortée puis secourue par des jeunes supporters du PSG. Elle témoigne avec émotion de ce beau moment d'échange intergénérationnel.
Mais quelle bande de fils de pute !
Ferme ta gueule, tête de chien, tu veux qu'on t'encule ou quoi ?
Escortée, secourue, mais pour échapper à quoi ? On le voit dans la vidéo, la seule foule c'est eux. Y'a personne d'autre dans la rue. Les journalistes transforment la cause de l'insécurité en solution de sécurité. En disant qu'elle a été protégée et secourue, le média sous-entend qu'il y avait un péril invisible dont ces jeunes l'auraient sauvée. C'est le syndrome du pompier pyromane. On crée l'agitation, puis on met en scène le fait qu'on gère l'agitation. Et le journal applaudit le civisme des perturbateurs. Quant au discours de la vieille dame, il me surprend même pas. T'as 90 ans, t'as plus toute ta tête, et tu te retrouves face à une horde de journalistes qui te foutent un micro dans le nez. Ils s'attendaient à quoi ? Qu'elle leur parle de remigration ? Bah non, elle va dire ce qui fait plaisir, ce qui ramène le calme, ou simplement répéter les mots qu'on lui met dans la bouche, parce que bon, on parle du Parisien quand même. C'est pas un entretien journalistique, c'est un interrogatoire de validation. On cherche pas la vérité, on cherche à lui faire signer le procès-verbal de la bien-pensance. On utilise son grand âge non pas pour la protéger, mais pour en faire un bouclier humain contre la critique. C'est le principe du « hey, c'est elle qui le dit, hein ». Le politique s'efface derrière la victime pour ne pas avoir à répondre aux arguments de fond comme l'insécurité et les codes culturels. D'ailleurs, c'est évident qu'elle n'a pas toute sa lucidité. Ses propos sont en total décalage avec la situation. Comment ça, ça la ramène en enfance ? Dans son enfance, elle se faisait entourer par 50 DZ surexcités ? J'en doute. Et dans l'interview, elle te parle de la guerre, de l'Holocauste, bref, c'est lamentable ce que fait la gauche.
C'est effrayant. Effrayant.
Pour conclure, revenons au cinéma. Le cinéma de gauche nous montre des minorités qui viennent éduquer des Français coincés. La réalité, c'est que cette prétendue éducation est une décivilisation. C'est le remplacement d'un peuple et d'une société du respect et de la considération par une société du sans-gêne, de la meute et du buzz. Arrivés au bout de cette analyse, soyons honnêtes et faisons preuve d'un peu d'ouverture d'esprit. Après tout, le film n'est pas encore sorti. Il se pourrait bien que je me trompe sur toute la ligne. Imaginons que Tomber du ciel soit en réalité un chef-d'œuvre de nuances et d'équilibre. Imaginons que le réalisateur, Mohamed Hamidi, ait décidé de rompre totalement avec les codes du cinéma subventionné. Peut-être qu'on va assister médusé à une critique acerbe des dérives de la banlieue. Peut-être que le film va courageusement dénoncer l'antisémitisme, le communautarisme, le sexisme de rue ou l'entrisme islamique. Mais soyons sérieux une seconde. Quand on connaît la filmographie du réalisateur habitué à brosser un portrait systématiquement idyllique et victimisant des minorités, et quand on voit la mécanique implacable de la comédie sociale française depuis 30 ans, il y a autant de chances que ce film soit nuancé qu'il y a de chances de voir un parent catholique envoyer son gosse en école coranique. La réalité, c'est que ce film ne dérogera pas à la règle. Il appliquera le même scénario permanent, la même propagande multiculturaliste que les politiques et les médias nous injectent au quotidien, celle d'une France traditionnelle coupable d'exister, sommée de s'excuser et de s'amender face à la prétendue supériorité morale de la diversité.
On souffle, on attrape son verre, on sent bien son...